Quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir?
The Cure? J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canus Info,
Canu Info
du mercredi.
Et bonjour, on est tout à fait à l'heure aujourd'hui. Bonjour.
Bon, attendez, je suis en train d'essayer de régler un casque là.
Voilà, bah c'est très professionnel ça.
Voilà, on est tous très très professionnels aujourd'hui.
Voilà, et donc aujourd'hui, on va vous parler de Abba la calotte laïque.
Relance du nucléaire, devinez qui va le faire, c'est moi. Des experts s'inquiètent.
Des trains pas chers.
On peut tuer les révolutionnaires, mais pas la révolution. Ça sera notre moment avec des cuivres.
Et meurtre de Lola, le gouvernement doit faire mieux, estime Olivier Véran.
Mais on va commencer bien sûr par des petites brèves.
Alors on va pas commencer tout de suite. Si, on va commencer tout de suite.
Oh bah attends, arrête.
Ok. Ah mais d'ailleurs on a oublié, il y aura le communiqué de la CGT 49 du syndicat des électriciens.
49-49-3
49-3, exactement, oui. C'est tout à fait ça. Et donc, comme première brève, on est un peu limite sur la technique, mais c'est pas grave. Comme première brève, Sudrail a décidé de reconduire la grève aujourd'hui, mercredi 19 octobre. Ils étaient mobilisés dans le cadre de la journée de grève interprofessionnelle d'hier. Ils réclamaient une augmentation de salaire et la fin des attaques contre le droit de grève. La grève a aussi été reconduite à la raffinerie de Fezin. Le ministre de la Transition énergétique a procédé à la réquisition de 10 salariés du service expédition, jugeant que Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, était parmi les régions les plus impactées par la pénurie de carburant. Et attendez.
Bon allez à moi. 14 000 places d'hébergement d'urgence supprimées d'ici à la fin de l'année. Ces suppressions font partie du projet de loi de finances 2023. Alors est-ce qu'on redit pour la millième fois en 2017, Macron avait promis qu'avant la fin de l'année, plus personne ne dormirait à la rue. Aujourd'hui, selon la Fondation Abbé Pierre, il y a quelque chose comme à peu près 300 000 personnes sans domicile fixe en France. Aujourd'hui, à la mi-octobre 2022, il y aurait 2000 enfants qui dormiraient dehors ce soir sans doute. Alors le ministère du Logement se vante d'avoir 200 000 places d'hébergement, un chiffre jamais atteint sous d'autres gouvernements. Et du coup c'est bien assez. Et puis par ailleurs, si on avait créé autant de places, c'était à cause de la crise sanitaire qui est à peu près terminée aujourd'hui. Alors 300 000 personnes SDF, 200 000 places, on pourrait se dire qu'en bonne gestion, il faut créer 100 000 places de plus. Nous, on se dirait ça, eux, non.
Vous avez vu, on a changé la musique. Un blocage a eu lieu ce matin au lycée Condorcet à Saint-Priest. La flicaille, qui ne peut pas s'empêcher de se mêler de ce qui ne la regarde pas, a fait usage de lacrymogène et a aussi arrêté au moins 7 lycéens. Le gouvernement, qui ne réussit pas à faire passer son budget, a décidé d'utiliser 49.3 et de faire un passage en force. Alors ça grince un peu des dents sur les bancs de l'Assemblée, déjà parce que personne n'est trop fan du 49-3 quand il est dans l'opposition, bien sûr, et ensuite et surtout parce que le gouvernement n'a pas trop joué le jeu. Alors, il se justifie, comme je vous le disais au début, en disant qu'il n'arrive pas à faire passer son projet de budget et qu'il y a donc un blocage qui est dû à l'opposition qui ferait une vilaine obstruction parlementaire. Mais, par exemple, l'année dernière, il avait fallu 49 séances d'Assemblée nationale pour qu'on fasse passer le budget. Là, on en était à 10 quand ils ont décidé de faire passer le budget au 49-3. Alors, persécution en France. Le PDG de Total s'est plaint de l'agitation autour de son salaire. Pour restituer l'histoire, la semaine dernière, Total a fait fuiter le salaire des salariés en grève et ils essayaient par là de faire passer leurs salariés pour des petits chanceux. La réponse des syndicats n'a pas mis longtemps à venir et ils ont rappelé que leur patron s'était augmenté de 52%. Cette semaine, le patron de Total a fait une sortie sur Twitter où il a signalé qu'il s'était bien augmenté de 52%, mais que c'était pour compenser une baisse de 30% qu'il avait subie l'année dernière. Bon, alors, en jouant avec les pourcentages, je suis un peu méchant, parce qu'en fait, l'augmentation de 52% et la baisse de 30%, ça fait kiff-kiff bourricot, et il a une rémunération qui tourne autour des 5 millions d'euros par an, ce qui fait quand même que le mec se mouche pas avec des mouchoirs en papier, puisque ça représente 380 années de SMIC par an de salaire. Petit problème de générique, on va résoudre ça.
t'as encore de la brève ou on passe à de l'info? Ah bon, bah alors attendez, parce que c'est à moi de parler, après j'ai qu'à y aller. Tiens, par exemple, en commençant avec ce titre que j'ai trouvé tout à l'heure dans 20 minutes, Calvados, des élus demandent que le prochain collège construit dans le département porte le nom de Samuel Paty. Alors Samuel Paty, il faut bien dire que c'est le dernier saint que nous offre cette espèce de religion républicaine de la laïcité, un machin où les choses, enfin c'est vraiment la attendez, je vais finir par terminer une phrase. Quelque chose qui donne un grand tournis entre religion, laïcité, laïcité religieuse, sentiment religieux de la laïcité. On est vraiment dans quelque chose d'un peu dingue ces dernières années en France, mais là avec l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, on part vraiment dans du très très fort. Alors, tant qu'il s'agit de se moquer de la religion qui, en France, est en gros la religion des plus pauvres, les formules comme liberté d'expression, droit au blasphème, tout ça sont sur toutes les lèvres, bien sûr. Mais quand il s'agit de cette espèce de nouveau dieu qui s'appelle la République, en particulier du plus médiatique des saints martyrs de la République, Samuel Paty, là, il n'est plus question du tout de droit au blasphème ou de liberté d'expression. Vendredi et lundi dernier, une cérémonie d'hommage était organisée dans tous les lycées et les collèges de France. Des minutes de silence, parfois ça pouvait être des débats, à condition bien que dans chaque débat on entende « Vive la République » en arrière-fond de toutes les phrases prononcées au cours du débat. Voilà, toutes sortes de messes à la République et aux saints martyrs. Pendant ces cérémonies, alors il y a quand même eu quelques gamins, quelques gamines, bon, des sales mômes, des incroyants, incroyantes, qui ont blasphémé. En langage républicain, bien sûr, on ne dit pas blasphémé, on dit provocation, on dit contestation, on dit apologie du terrorisme, refus de participer, perturbation de l'hommage, voire menace. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est exactement les mêmes gamins qui croassaient quand monsieur le curé passait il y a 100 ans. C'est celles et ceux qui font une gloire de ne pas respecter ces trucs qui mettent les adultes au garde à vous. Mais il y a 100 ans, le gamin ou la gamine se serait fait tirer les oreilles par monsieur le curé. Aujourd'hui que la religion officielle, c'est plus le catholicisme, c'est la République, voilà ce que ça donne. Sur le coup de l'hommage à Samuel Paty, 44 exclusions définitives, 131 exclusions temporaires, 4 élèves qui ont reçu des blâmes, 48 qui ont reçu des avertissements, et par ailleurs, parce que quand même, ça reste pas que dans l'enceinte du bahut, par ailleurs, tout ça pour des blagues, pour des provocations, pour des phrases qui ont été dites pendant la minute de silence. Hein. Par ailleurs, 286 signalements ont été effectués auprès des services police-gendarmerie et 136 autres auprès des procureurs de la République. Franchement, le blasphème en République, c'est chaud. Alors, pour continuer un peu sur la laïcité, mais en changeant un peu de cette histoire d'hommage, on a pas mal entendu ces derniers jours que même hors contexte d'hommage à Saint Samuel, les atteintes à la laïcité à l'école s'était multipliée depuis la rentrée. Entre le mois de septembre et le mois d'octobre, il y a eu une énorme augmentation. Et tout le monde de s'émouvoir, et le ministre de l'Éducation d'en rajouter. Alors le ministre de l'Éducation, on se rappelle, Pape Ndiaye, il était soupçonné, quand il a été nommé, il a été soupçonné de communautarisme à son arrivée, par la droite française, et dans la langue de la droite française, communautarisme, c'est plus ou moins synonyme de musulman, ou de woke, ou d'antiraciste. Enfin bref, c'est ces gens qu'il faut abattre. Mais du coup, notre ministre, notre nouveau ministre de l'Éducation, il semble quand même tout faire pour se donner les moyens d'être accepté dans la grande famille de la droite. Et il a bien officiellement signalé cette explosion des atteintes à la laïcité. Sauf que d'un côté, il y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité. D'un autre côté, il le dit lui-même aussi, mais il ne le met pas en relation avec la première info, alors que quand même... Théoriquement, c'est un chercheur. Théoriquement, il a un peu de la méthode dans les manières de réfléchir. Mais alors là, on dirait qu'il fait un peu semblant d'avoir oublié tout ça. Et donc, d'un côté, il y a l'explosion de la laïcité. Et puis, d'un autre côté, il le dit à côté comme si ça n'avait aucun rapport. En fait, le code vestimentaire républicain a été extrêmement restreint depuis cette rentrée. Avant, pour offenser la République par sa tenue, il fallait porter un voile. C'était quand même globalement ça. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui risquait de vous mettre dans les embrouilles. Mais, mi-septembre, il y a une note du ministère qui a apporté une précision. Alors, suite à des proviseurs qui ont dit non, mais nous, on a un problème parce qu'on pense que peut-être on n'est pas assez sévère, on laisse trop faire les élèves, tout ça. Et donc, le ministère s'est saisi du problème. Et depuis cette note, on parle aussi d'histoire d'abaya, de camis, de je ne sais quoi. En gros, c'est des chemises et des robes que portent les mômes. Et si ces mômes sont soupçonnés, généralement par leur couleur de peau ou par leur prénom, d'être musulmans, ou en particulier musulmanes, dans ce cas, ces vêtements sont des problèmes. Alors avant, c'était que la tête. Maintenant, c'est tout le corps qui doit être vêtu de façon républicaine. T'as pas de voile, mais t'as une robe trop noire, trop longue, trop serrée, l'équipe éducative se met en branle. Et là, alors attention hein, quand même, hein. ils le font pas de manière bourrine, hein. c'est des profs. Le fait que la tenue et du coup il y a des critères, c'est pas parce qu'une fois t'as mis une robe trop longue que tu vas te retrouver exclu définitivement. Il y a des critères. Le fait que la tenue soit portée de manière régulière, la persistance du refus de l'ôter. Bon, bien sûr, tu viens avec ta robe, là tes profs ils disent ah bah non, elle est pas républicaine, enlève-la. Là tu te retrouves en culotte au milieu de la cour, généralement tu refuses de l'ôter. De même que le fait qu'il s'agisse de tenues traditionnelles portées lors de fêtes religieuses. Alors ça, vous rendez compte? Les gens, c'est un peu comme si t'allais à l'école en habit du dimanche, quoi, en habit de la messe. Non, ça se fait pas. Et là, bien sûr, comme il y a ces critères et qu'il faut que tout le monde réfléchisse de manière constructive, tout ça, bon, bien sûr, on connaît un peu les profs, les CPE, les proviseurs. On les a fréquentés quand on était entre leurs sales mains et on sait quelle confiance on peut leur accorder pour avoir un traitement objectif, honnête, dépassionné et non raciste de ces critères. Alors, tous ces adultes encadré par tous ces textes, tous ces critères pour décider si une tenue portée par une gamine est licite ou pas licite. Et on se souvient d'autres histoires, hein, que si la tenue ne doit pas être trop longue, elle ne doit pas non plus être trop courte. Parce que les robes trop longues ne sont pas républicaines, mais les croque-tops, on s'en rappelle, ne sont pas républicains non plus. Alors, on parle beaucoup ces derniers temps de l'Iran. On avait un invité la semaine dernière pour parler des révoltes en Iran, dont le refus du port du voile est un symbole. Mais il faut bien constater qu'en France, et finalement là-dessus, comme en Iran, si t'es une fille, c'est pas à toi de décider de ce que tu vas porter. C'est pas à toi de décider comment tu vas t'habiller pour aller au bahut ou pour aller n'importe où. C'est à l'État, c'est à la loi et c'est aux profs.
Radio Canu. 102.2.
Rebelle des radios.
Canu Info.
Et donc on va s'écouter un petit morceau. Tout de suite, c'est parti. Tu veux le présenter?
Oui, le morceau c'est de Fabrizio De André. E se il bombarolo.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son Bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son Bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un Bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col Bombarolo.
Alors, récemment, 17 guérilleras et guérilleros de la branche armée du Parti des Travailleurs du Kurdistan, PKK, ont été tués dans le nord de l'Irak par des armes chimiques. Depuis février 2021, 367 attaques à l'arme explosive et chimique ont été perpétrées par l'armée turque au sud Kurdistan, c'est-à-dire en Irak. Alors, d'après le commandement des forces révolutionnaires locales, ces attaques sont menées avec la complicité de l'OTAN. Et bien que l'armée turque ait utilisé sporadiquement des armes chimiques dans divers endroits par le passé, cette pratique est devenue quasi systématique en 2021 et s'est encore intensifiée en 2022. Et cela, surtout depuis le 14 avril et la guerre d'invasion menée par la Turquie dans le nord de l'Irak. Toutes et tous les démocrates de la région appellent les Européennes et les Européens à dénoncer ces attaques et à se mobiliser partout pour faire pression sur les organisations internationales telles que l'OIAC, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et si vous voulez en savoir plus sur les mobilisations, vous pourrez suivre tout ça sur internet avec Rise Up for Rojava. Rise Up comme Rise Up et Fort comme un 4 et Rojava.
Canu Info. Du mercredi.
Et fin septembre, plusieurs organisations membres du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, avaient regretté le passage en force de l'État concernant son projet de loi visant à accélérer la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Dans son projet d'avis, donc c'est cette espèce de conseil machin, c'est un truc consultatif que personne n'écoute, mais qui donne un avis. Dans son c'est pas des citoyens lambda, c'est des scientifiques quoi. Dans son projet d'avis qui doit être adopté le 19 octobre, mais qui a été pré-dévoilé par une revue qui s'appelle Contexte, le CNTE reste sur la même ligne. Alors cette commission consultative qualifie d'insuffisant les délais d'examen de ce projet de loi. Parce qu'entre le moment où Macron dit « Tiens, on a qu'à plutôt refaire le nucléaire plutôt que d'en sortir » et le moment où le projet de loi passe, en fait, c'est extrêmement court. Et du coup, les membres du CNTE ont eu à peine 3 semaines pour étudier le texte et rendre leurs conclusions, sachant qu'à la base, le gouvernement leur avait même demandé de le faire en 1 semaine. Bon, le CNTE, par ailleurs, déplore l'insuffisance de l'étude d'impact du projet de loi, notamment sur les impacts économiques, sociaux, environnementaux, et sur ceux des règles d'urbanisme, en l'absence d'autorisation dédiée, et sur l'évaluation environnementale. Bon, bref, tous ces trucs qui, en réalité, là, on parle d'enjeux bien pires que quelques espèces protégées dont tout le monde va se foutre, en l'occurrence, mais qui montrent aussi comment le gouvernement fait avec le nucléaire. C'est-à-dire que tous les critères, tous les standards habituels, là, en l'occurrence, ils sont juste dégagés et plus personne n'a rien à foutre.
On peut construire des réacteurs en plastique.
Réacteurs en plastique, on peut les construire sur un nid de libellules, je ne sais quoi, où il en reste juste 4 dans le monde entier.
C'est un peu devenu leur spécialité. Là, il n'y a pas longtemps, il y avait tout un tas de réseaux d'eau en France qui n'étaient pas aux normes. Et résultat, ils ont augmenté les seuils de.
C'est ça.
De
ils ont juste, dans ce cas, juste maintenant, ils changent les normes puisqu'ils savent qu'ils peuvent plus changer la réalité. Donc, ce qui était dangereux avant-hier, là, ils disent non, mais en fait, on a décidé que c'était plus dangereux et le résultat, c'est certainement plus dangereux.
Buvez des bières.
C'est ça. Donc, toi, on sait bien ce que tu as fait hier, toi. Le CNTE recommande aussi à l'État de tenir compte, ce qui serait malin, pour chaque site envisagé, pour la construction en particulier de ces EPR2, c'est-à-dire des EPR de deuxième génération, de tenir compte, ma foi, des avantages et des risques éventuels liés au développement des nouvelles infrastructures nucléaires, notamment au regard de leur vulnérabilité face aux impacts du dérèglement climatique. C'est bien de rappeler ça au gouvernement, c'est bien parce qu'effectivement on a quand même vachement l'impression qu'en l'occurrence ils font comme si ça n'existait pas quand ils pensent le nucléaire. Certains membres du CNTE rappellent ainsi les risques bien documentés de montée des eaux, d'érosion côtière, ma foi, voire de subversion, non, comme à Fukushima vous voulez dire, pour les sites nucléaires situés en bord de mer. Non, mais c'est vrai, ça semble malin en fait. De quoi potentiellement remettre en cause la pérennité des futurs sites à l'horizon 2100. Encore, ils sont optimistes de parler que de 2100. Par exemple, le premier EPR2 doit être construit à Penly, une ville de Seine-Maritime, située sur une zone côtière, c'est-à-dire exposée à tous ces trucs, érosion, montée des eaux et vagues submersion. Certains des membres du CNTE n'ont aussi pas manqué de souligner le caractère non démocratique de ce projet de loi. Ah bah oui, parce que quand Macron a décidé, on va pas non plus se faire chier à suivre les usages, demander leur avis à tout le monde ou je ne sais quoi. Celui-ci a de fait été présenté en amont de la deuxième phase de concertation publique sur la stratégie française énergie-climat, mais aussi du débat parlementaire qui est prévu au printemps 2023 qui concerne le projet de loi de programmation énergie-climat. On ne va pas attendre que les parlementaires débattent. Le 12 octobre dernier, la première ministre Elisabeth Borne avait annoncé que ce projet de loi sur l'accélération du nucléaire allait être présenté en Conseil des ministres début novembre. C'était la petite brève. Ça faisait au moins 15 jours que je n'avais pas dit nucléaire.
Félicitations.
Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et donc moi je vais vous lire un communiqué de la CGT Énergie 49 parce que vu le sujet je me sentais pas trop de le résumer. Et voilà. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès par suicide de notre collègue Mathieu Poli, agent RTE de l'équipe en poste au groupe de maintenance Réseau d'Anjou, ce lundi 17 octobre 2022. En ce moment de douleur, nous adressons toutes nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. Mathieu avait 29 ans. C'était un agent investi dans son travail. Par sa rigueur et son professionnalisme, il était apprécié de son équipe ainsi que des autres équipes du GMR. Il était à l'écoute, juste, droit, perfectionniste, concis et reconnaissable par son sourire discret. Comme de très nombreux collègues des GMR de l'Ouest, il avait participé aux 3 mois de grève pour gagner une revalorisation de 5% du salaire et une révision des reconnaissances de qualification. Il avait pu mesurer le mépris dont les agents font l'objet lorsqu'ils demandent la mise en application du fameux « ruissellement ». Entendez le partage des richesses dans une entreprise qui a fait 661 millions de bénéfices en 2021, avec à sa tête un directeur national qui s'est lui augmenté de 20%. Il avait pu voir intervenir les CRS, des directeurs régionaux ou nationaux provocateurs, des collègues convoqués au commissariat de Saumur ou en entretien préalable à sanction parce que gréviste. Ensuite, il avait été le premier à être convoqué au commissariat d'Angers le mercredi 7 septembre à la suite d'une action de grève le 2 juin. Comme les autres collègues convoqués, Mathieu avait très mal vécu cette période de mépris, d'humiliation puis de répression en tout genre. La CGT sera là pour honorer sa mémoire, soutenir sa famille et ses collègues.
Canu Info. Du mercredi.
Au début du. Attends. En plus, ça a une légère logique. Alors que la pénurie de carburant se poursuit en France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé une remise exceptionnelle sur les billets de TER. Ces billets seront vendus à moitié prix aujourd'hui et d'aujourd'hui pardon, à vendredi. Les billets de TER en PACA, qu'on se le dise. L'objectif est de proposer une alternative immédiate aux habitants, eux ils féminisent pas, qui se déplacent chaque jour sur le territoire pour leur faciliter leur quotidien, d'après le président de région, Renaud Muselier, Les Républicains. D'autres régions ont proposé des mesures un peu du même genre. Le week-end dernier, en Occitanie, les billets de trains régionaux étaient à 1 euro. Et toujours le week-end dernier, ma foi, en Rhône-Alpes, on n'avait pas besoin de billets pour rentrer dans les TER. Je l'ai malheureusement appris juste pour mon retour, parce que l'aller que j'ai fait le week-end dernier, je l'ai bêtement payé. Ça m'a bien énervé cette affaire.
Remboursé, en argent.
Ouais, c'est ça. Mais alors, soyons clairs quand même, l'esprit de ces mesures, c'est de faire chier les grévistes dans l'état, dans l'idée qu'a la droite, que le but principal des grévistes, c'est bien d'emmerder le monde, et donc, là, ah, vous voulez emmerder le monde, et ben non, on va être sympa avec eux. C'est un peu comme ça que pensent les Renaud Muselier, les Wauquiez, les je ne sais quoi. Alors, ma foi, on soutient bien sûr le blocage des raffineries, mais là, du coup, c'est vrai qu'on le soutient carrément encore plus.
Ah bah oui, ainsi, quand ils bloquent les raffineries, ils se mettent à ouvrir les trains gratuits.
Ben c'est ça, c'est ça.
D'où l'effet qui se coule bonus.
Et du coup, moi je me disais même qu'on pourrait peut-être envisager de pérenniser le machin. Très peu d'essence, la vie un peu compliquée pour les automobilistes, et des trains entre 1 euro et gratos. Ça serait quand même une bonne idée.
Et quand est-ce que Laurent Wauquiez va proposer l'Antifa Fest gratuit?
Non, mais parce que il faut d'abord que l'Antifa Fest emmerde l'usager.
Mais il peut pas parce que ça coûte trop cher de payer les repas à 1100 euros la tête.
C'est ça.
Canu Info.
Au début du mois, Nagi Ann Akarsel, rédactrice en chef de la revue Généalogie, a été assassinée devant son domicile dans le nord de l'Irak. Connue pour son travail sur les femmes, la généalogie et le journalisme féminin, cette femme kurde, née à Konya en Turquie, était une des principales ambassadrices de la généalogie. Alors qu'est-ce que la généalogie ? La généalogie, science des femmes en kurde, a joué un rôle majeur dans la révolution du Kurdistan de l'Ouest, autrement dit du Rojava. Cette science considère l'émancipation des femmes comme préalable indispensable à l'émancipation des peuples. Elle est d'ailleurs enseignée dans les universités du Rojava et fait partie de la formation des forces armées révolutionnaires de défense du peuple. Mais par qui Nagi Ann a-t-elle été assassinée? Alors je vais seulement vous donner quelques indices. La semaine dernière, lors d'une rencontre entre l'ambassadeur turc et le président de la région du Kurdistan irakien, durant la conférence de presse, un journaliste demande à l'ambassadeur ce qu'il pense des allégations selon lesquelles les services secrets turcs seraient responsables du meurtre de Nagi Ann. Voici sa réponse, je cite « Toutes les personnes en lien avec le PKK représentent pour nous des cibles. » Vous ferez vos conclusions vous-même. Hier, Nagi Ann Akarsel a été enterrée dans son village dans la région de Konya en Turquie. Malgré l'énorme dispositif mis en place par l'armée et par la police, une foule immense a réussi à se former aux abords du cimetière. Et cette foule s'est mise à scander « Nazgihan est immortel » et « Jin Jihan Azadi, femme, vie, liberté », slogan historique de la résistance kurde et symbole de la révolution actuelle en Iran. Ce slogan continuera de résonner, prêt à faire exploser tous les carcans réactionnaires du Moyen-Orient.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Bon, allez, hop, tant pis, on va le faire. On va parler de cette histoire de faits divers il y a 2-3 jours, là. De faits divers quand même un peu dégueulasse. Une gamine de 12 ans, violée, torturée, tuée par, ma foi, une femme SDF avec des troubles psychiatriques et sans papier. Alors, Olivier Véran a fini par réagir aujourd'hui au nom du gouvernement et a parlé de cette histoire. Et il admet que le gouvernement doit faire mieux. Alors, qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire de mieux pour que cette horrible histoire n'arrive pas? Alors, on pourrait penser que si Macron avait tenu sa promesse de 2017 et que plus personne ne dormait à la rue, celle dont on parlait tout à l'heure, cette histoire ne serait sans doute pas arrivée, puisque cette femme SDF aurait sans doute pas été dans l'état où elle était à ce moment-là. On pourrait aussi penser, depuis des années qu'on le dit, qu'une prise en charge un peu sérieuse des personnes atteintes de troubles mentaux, ma foi, ça aurait peut-être pu avoir une sorte d'efficacité en l'occurrence. Mais on se tromperait complètement, parce que c'est pas du tout de ça que Véran parle. Non, non, il s'agit bien de faire mieux pour expulser les sans-papiers. Et si Véran dit ça, c'est qu'il suit juste toute la droite et l'extrême droite, qui a immédiatement lancé cette thématique juste après le meurtre. Alors, ce que je veux dire, ça veut bien dire ça. Ça veut dire que dans ce pays de cinglés où on vit, quand un crime vraiment dingue est commis par une personne qui est folle, qui est SDF et qui est sans-papiers...
Et qui a été victime de violences conjugales.
Ah, j'ignorais ça, mais voilà, bon, bah, très bien. En plus, là aussi, je veux dire, un autre domaine, personne ne fait lien entre les pathologies mentales et le meurtre. Personne ne fait lien entre les pathologies sociales et le meurtre. Mais par contre, ça semble évident pour tout le monde que le meurtre est causé par le fait qu'elle a été sans papier. Non, mais quand plus rien a de sens à ce point-là, ça devient même une question de juste continuer à parler, non?
Ça tombe bien
que c'est la dernière du Canu Info, tiens.
Du mercredi.
Ah,
c'est vrai.
Reportage de notre petite collègue, de notre collègue en camion, qui va bientôt s'appeler.
C'est la future rubrique, le camion info du mercredi.
Le camion info, voilà, merci. Et donc, du coup, qui est aujourd'hui à Sarajevo pour une manif justement sur les féminicides. Et on vous laisse écouter ça.
Enough! What is enough is enough! Move out of the way! An angry woman is coming!
Vendredi dernier, environ 200 personnes se rassemblent place de la Libération à Sarajevo et partent en manif. On n'a pas de chiffres exacts sur les féminicides ces dernières années, mais d'après les quelques infos que l'on a, et en tout cas depuis 2017, plus de 60 femmes ont été tuées en Bosnie. Aucun de ces meurtres n'a été notifié comme un féminicide, et ceux qui en sont les auteurs ont écopé de très petites peines. C'est toujours présenté comme des violences intrafamiliales. Le dernier en date, c'était il y a 4 jours, dans la ville de Bihać, au nord de la Bosnie, où un homme a tué sa femme en l'étranglant à main nue. Il s'est enfui, son corps a été retrouvé peu après, il s'était suicidé. Et ça ne change rien à ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire un féminicide. Évidemment, les femmes ont été très en colère. Elles le sont d'ailleurs depuis très longtemps en Bosnie. Et pas seulement à cause de ça, mais à cause de tout ce qui se passe pour nous écraser. Aujourd'hui, on a pu voir dans la rue des enfants, des personnes très religieuses, des vieilles femmes, et tout le monde est venu ensemble. Il y a des manifs en même temps dans une vingtaine de villes dans toute la Bosnie. Donc c'est un grand moment, et c'est la première fois que quelque chose d'aussi gros se passe pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il y a bien eu des mouvements avec MeToo, mais pas vraiment de cette façon, pas avec autant de monde dans les rues qui se rassemblent de façon si spontanée.
You know, it is really, they just came out. I mean, you could see like elderly women, they blocked the roads today. They were the first one to block the roads.
Aujourd'hui, on a vu les plus vieilles des manifestants prendre la tête et bloquer la route.
Led us all to the streets. They said, let us block the streets. It's beautiful when you have like somebody who is like 80 or something saying, it's enough, it's enough.
C'était magnifique de voir des femmes de 80 ans scander qu'elles en ont assez. Je pense que c'est le début de quelque chose. On peut espérer qu'on pourra toutes ensemble essayer d'imposer des changements. On verra ce qui découlera de ça.
Basically, we're here to support the initiative to recognize femicide.
On est là pour soutenir l'initiative pour faire reconnaître dans la loi le féminicide en tant que tel parmi les crimes. On est là pour soutenir toutes les femmes qui survivent actuellement à des violences chez elles. Selon les statistiques, une femme sur quatre en Bosnie souffre de violences actuellement.
Because as we know, according to statistics, like one in four women in Bosnia are suffering violence at the moment. Well, I think we still live in patriarchy, and honestly, personally, I was really upset by the comments posted by men online.
Je pense qu'on vit dans une société patriarcale, et j'avoue que j'en ai assez de lire les commentaires postés par des hommes sur les réseaux qui disent qu'on ne peut prendre parti pour personne dans cette histoire, mais c'est un meurtre avec une victime.
Angry, I am angry. That's me.
Ce n'est pas très légal, mais on s'en fiche. L'une des nôtres a été tuée. On peut bien bloquer
là. Today I came here with my daughter. Last time I was alone.
Aujourd'hui, je suis venue avec ma fille. La dernière fois, j'étais seule. La prochaine fois, c'est sûr que j'emmènerai mon mari, mon fils et mes frères et mes sœurs. Un moment comme celui-là peut nous inspirer pour que notre voix soit un peu plus forte. En un sens, je crois que je suis prête à être plus agressive.
Alors, il y a eu un. Alors, c'était il y a quelques années. Je crois que c'était avant le Covid. Nisam Trajila, c'est donc une de mes collègues en fait qui est elle dans le milieu du théâtre et aussi du film, enfin de l'industrie. Elles ont commencé en fait ce mouvement juste après MeToo en fait.
Tu peux expliquer ce que c'est que ce mouvement?
Donc, c'est surtout dans le milieu de la culture où les femmes, voilà. Nisam Trajila, les femmes ne se laissent pas faire et elles se battent par rapport à leurs droits parce qu'il y a eu des abus dans le monde du théâtre, dans le monde de la culture. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ça sort de ce mouvement, en fait, cette marche.
I have to say it's almost dead. Like in Yugoslavia, we did have a very strong feminist movement. However, after the war, feminism kind of like became.
Je dois dire que le féminisme en Bosnie est presque mort, parce qu'en Yougoslavie, on avait un mouvement féministe très fort, mais après la guerre, le féminisme est devenu une sorte de thème des interventions internationales, une façon d'organiser des dons, et tout cela n'a donné que des projets. Donc il y a beaucoup d'ONG qui n'ont aucun lien avec le féminisme, qui font ce qui plaît à leurs donneurs, et même quand elles nous racontent que ce sont des actions féministes, on ne le sent pas vraiment. Donc le plus souvent, ce qu'il se passe vraiment dans la population, ce sont des petits rassemblements spontanés, ce qui constitue en fait le vrai féminisme et le vrai activisme. Encore une fois, on avait vraiment un féminisme fort en Yougoslavie. Et pour nous, ce serait déjà énorme de revenir à ce que l'on avait construit. On avait des combattantes, on avait des mouvements féministes antifascistes, et tout ça a disparu. Donc on doit se souvenir de ce qu'on a fait et continuer la lutte, et bien sûr, encourager par les jeunes qui nous rejoignent et qui veulent construire quelque chose de nouveau. En tout cas, il nous reste à le faire, mais ce rebond est peut-être une chance pour construire de nouveau un féminisme fort en Bosnie. Women of Srebrenica, that's a pure feminism. What they are doing, it's a bravery. You know, these women, they survive like a hell, and they still find the strength in themselves. Un exemple du féminisme en action, c'est par exemple ce que font ces femmes de Srebrenica. Leur lutte courageuse pour retrouver les traces des corps de leurs maris et enfants tués en juillet 95 lors de ce massacre. Ces femmes ont survécu à l'enfer et elles restent fortes et fières, et c'est un peu une leçon qu'elles donnent à tous les féminismes du monde. Mais malheureusement, les politiciens manipulent ce mouvement pour des buts nationalistes ou pour mobiliser l'attention de l'Union européenne. Bref, tout le monde s'empare de ça et met tranquillement dehors l'aspect féministe.
In it, and it's a feminism, you know. Instead of looking at these women of Srebrenica as a real heroes, like heroines,
au lieu de voir ces femmes de Srebrenica comme des vraies héroïnes, ils les regardent comme des pauvres mères qui ne peuvent rien faire, qui ont besoin de l'aide des hommes pour produire quelque chose, alors qu'elles ont tout fait par elles-mêmes.
It's a different way how we should look.
Alors, une petite partie agenda, très précis et très détaillé. Du coup, ce samedi, à la Griffe, sûrement à 15h, parce que souvent à la Griffe, c'est à 15h, il y aura un débat. Alors sûrement, comme c'est à la Griffe, ce sera un truc sur les anarchistes. Et ce sera sûrement, comme c'est à la Griffe, très intéressant. Donc on vous encourage à y aller.
Attends, je l'ai.
Ça y est, t'as trouvé les infos.
Rencontre, débat autour de l'ouvrage La Fabrique du Progression... Du progrès. Scientisme, système technicien et capitalisme vert.
Tout à fait, c'est pour dire que quand la science est réservée à des spécialistes, elle sert à opprimer.
Ça va sûrement dire aussi que quand on achète une voiture, finalement, on va que à 3 km/h parce qu'il faut prendre en compte le coût de production dans la vitesse.
Ouais, je pourrais vous lire la quatrième de couverture, mais alors elle est méga longue, alors on va laisser tomber.
On va laisser tomber, ouais.
Puis comme ça permet de finir à 43 ces infos.
Suspense.
Et de vous laisser du suspense ou aller voir sur un site local qui s'appelle rebellion.info sur lequel vous pourrez retrouver
la quatrième de couverture du livre
et toutes les activités de la Griffe.
Ainsi que tous deux, oui, d'une part, et la confirmation que c'est bien samedi après-midi à 15h.
Il n'y a pas de surprise.
Et ouais, mais c'est ça, les gens sont fiables.
Grâce au fait qu'on finit le canut info tôt, on va pouvoir vous laisser profiter des magnifiques bandes continues qui ont fait le succès de Radio Canut.
Théoriquement, pendant 17 minutes avant le début de l'émission Idées Noires, l'émission de la...
Coordination. Non, l'Union des communistes libertaires.
Oui, il n'y a même plus le mot anarchiste dans leur nom, c'est vrai.
un non-commentaire. Allez, bonne soirée.
C'est le canut info du mercredi. Retrouvez le canut info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanut.org.